Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Chaque année en France, 140 000 personnes sont frappées par un AVC. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'une de ces personnes. Mais c'est un Français un peu particulier parce que, au moment où l'AVC s'abat sur lui, il est PDG du groupe PSA Peugeot Citroën. Mieux que ça, on est en pleine crise financière en 2008, PSA bat de l'aile et il est frappé par un AVC. Son histoire a inspiré un film, Un homme pressé, avec Fabrice Luchini. Dans son rôle, il s'appelle Christian Streff et bien sûr il est avec moi. Bonjour Monsieur Streff.
Bonjour.
Le film a été adapté de votre livre, J'étais un homme pressé, qui paraît au Cherche Midi. Et c'est à partir de là, moi aussi, que j'ai bâti mon histoire, avec l'aide de Simon Veil. Réalisation de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Je m'appelle Christian Streff. Quand débute cette histoire, au mois de mai 2008, j'ai 53 ans. Et personne ne pourra dire que je n'ai pas réussi. J'ai dirigé Saint-Gobain, j'ai présidé Airbus, et depuis un an, je suis le PDG de PSA Peugeot Citroën. 200 000 employés. Avec la crise financière, j'ai du pain sur la planche. La boîte ne va pas bien. Mais j'ai un beau projet pour la relancer. Le projet DS. La DS3, une petite citadine haut de gamme. Ça va marcher, j'en suis sûr. Le 22 mai 2008 au matin, à 6h15, Christian part de chez lui. Ah, ça se lève tôt, un grand patron. Ce matin, il s'est fait prêter une voiture de la concurrence, une Mini Cooper de chez BMW. Le modèle, justement, qu'il compte concurrencer avec sa DS3. Il roule jusqu'à la Seine, il remonte les Champs-Élysées, et quand il arrive place de l'Étoile sur les pavés, il fait deux fois le tour pour tester la voiture. Et puis il enfile l'avenue de la Grande Armée et il entre dans le parking du numéro 75, le siège historique de PSA. Ascenseur, 9e étage, le voilà dans son bureau. À peine arrivé, il avale un café et il envoie un mail à l'ingénieur en charge du lancement de la DS3 pour lui faire part de ses impressions sur la Mini et pour lui montrer que le grand patron s'intéresse à lui. Et puis il attaque une journée de dingue, comme tous les jours. Des rendez-vous, des coups de fil, les ventes qui chutent, la crise. En 11 heures, il a déjà bu 4 cafés. Et pourtant, il se sent fatigué. Dites-moi, Lauriane, vous arrêtez les rendez-vous, là. J'ai besoin d'un petit moment pour réfléchir. Un patron, ça n'est jamais fatigué. Au pire, ça réfléchit. Et donc, il fait quelques pas dans son bureau. Il se sent lourd, incapable de se concentrer. Alors il se dit, je vais faire une petite sieste, 10 minutes, par terre, sur la moquette, comme il le fait toujours. Et après, ça repart. Il s'allonge, il ferme les yeux, et en quelques secondes, il s'endort. Monsieur Streff ! Monsieur Streff, faut se réveiller, là ! Christian ouvre les yeux. Il voit Lauriane, sa secrétaire, et puis il voit l'infirmière et Philippe, son chauffeur. Et il l'entend dire « Ah non, mais on va pas attendre l'ambulance, hein ? Je l'emmène direct à l'hôpital américain. » En route pour l'hôpital américain, l'hôpital des stars, mais peut-être pas le meilleur hôpital de Paris, Philippe, le chauffeur, reçoit un coup de fil du directeur financier.
« Philippe, changement de direction. Je viens d'avoir la pitié salpêtrière, là ils l'attendent. Vous y allez tout droit. »
Quand il arrive à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Christian se souvient d'un grand blanc. Quand il se réveille, il est dans son lit d'hôpital, entouré de médecins. Sa femme Françoise est là.
Ah Françoise ! Oh, c'est bien gentil tout ça, mais j'ai du boulot moi. J'ai des gros dossiers en cours. On va me laisser partir hein, maintenant. Ça suffit, hop hop, on y va !
Plus grand patron que jamais. Sauf qu'évidemment, on ne le laisse pas partir. Et on a bien raison, parce qu'en début d'après-midi, Christian se met à baragouiner. De drôles de phrases.
Non mais fais gaffe à la pluance, là. Et surtout à l'Angleterre, hein, parce qu'il y a la rumba de la Nuit Rouge. Ah, la rumba, tu comprends.
Christian a fait un AVC. Lui, bien sûr, ne se rend compte de rien. Il ne se rend pas compte surtout que sa vie vient de basculer. Et le lendemain, il baragouine plus que jamais. On ne comprend rien à ce qu'il raconte. Mais lui ne s'en rend pas compte. Enfin, j'ai rien. Tout va bien. En revanche, le jour d'après, il y a comme un progrès. Du coup, pendant les examens, à l'IRM, il se met à penser à la DS3, à la Peugeot 3008, au chiffre d'affaires, au contrat avec Mitsubishi. Il se dit « je vais retourner au boulot ». Il ne se rend pas compte de son état. Et ça, pour les toubibs, ça a un nom. Ça s'appelle l'anosognosie. Oublier qu'on a oublié. Et chez Christian, comme souvent, ça se double d'une aphasie amnésique. Un infirmier vient le voir. Il lui montre ses lunettes. « Qu'est-ce que c'est, ça ?»« Eh bien, ce sont vos lunettes. Et ça ?»« Eh bien, c'est un stylo. » Jusque-là, tout va bien. L'infirmier range son stylo. Il relève sa manche. « Et ça, qu'est-ce que c'est ?»« Bah, c'est votre montre. »« Non, ce qui bouge, là, qu'est-ce que c'est ?»« Les aiguilles ?»« Non, ce qui bouge, là, c'est la trotteuse. »
Et le lendemain, il lui repose la même question.
Qu'est-ce que c'est là? Ce qui bouge là?
Il a oublié. L'infirmière recommence plusieurs fois par jour, plusieurs jours de suite. À chaque fois, Christian jure de s'en souvenir. La trotteuse, la trotteuse. Et pourtant le lendemain.
Qu'est-ce que c'est là? Ça qui bouge?
Il ne sait pas. Thierry Peugeot, le grand sachem de PSA, vient le voir, bien sûr.
Christian, reposez-vous, hein. Remettez-vous, nous attendrons que vous soyez remis. Et puis vous reprendrez votre poste.
Il le remercie, mais dans sa tête, il se dit « Bien sûr que je vais reprendre mon poste, enfin. C'est l'affaire de quelques jours, peut-être de quelques heures. » Sauf que le lendemain, Christian fait un troisième AVC. Et oui, un troisième, parce que celui qui l'avait amené à la pitié salpêtrière, c'était le deuxième. Il en a fait un premier 8 jours plus tôt. Un matin, il se réveille avec le côté droit insensible. Sa femme lui dit
« Ça peut être sérieux, Christian. Faut que tu vois un médecin. »
Et donc, il passe à l'hôpital américain. C'est pas loin de son bureau. Et il ment au médecin.
« Oh, mais ça va beaucoup mieux, hein. Côté droit, côté gauche, tout va bien, hein. »
Et le soir même, il s'envole pour l'Irlande comme si de rien n'était. Un rendez-vous avec des analystes financiers. Et 8 jours plus tard, il fait son deuxième AVC. Et là donc, il est en train de faire son troisième AVC. Il est dans sa chambre d'hôpital le soir. Et un peu comme au bureau, quelques jours plus tôt, il se sent tourné de l'œil. Il a le réflexe d'appuyer sur le bouton. Le médecin arrive et on l'emmène illico aux urgences. Cette troisième alerte, c'est celle qui m'a fait réfléchir. J'ai pris conscience que le risque que j'avais encouru était tout simplement de mourir ou de me retrouver dans l'état de mes voisins d'hôpital, lourdement handicapés. Christian, après ce troisième AVC, admet qu'avec la crise financière, il a peut-être trop travaillé, qu'il a trop bu de café, qu'il n'a pas assez dormi, qu'il n'a pas assez fait de sport. Il commence à avoir conscience de ça. Il a exagéré. Mais il pense toujours qu'un peu de repos et c'est reparti. Le professeur Sanson, qui le suit, douche son enthousiasme.
Bon, votre examen neuropsychologique indique qu'il y a du travail en perspective, hein, monsieur Streff. Vous avez des difficultés dans ce qu'on appelle la résolution des problèmes de logique verbale. Ça va s'arranger, mais il va falloir travailler beaucoup pour récupérer.
Et là, le professeur Sanson se lance, dessin à l'appui, dans une explication sur ce qui lui est arrivé. Un AVC de type ischémique.
Vous voyez là? Là se trouve une partie du cerveau qu'on appelle le thalamus. C'est là que ça s'est passé. Des vaisseaux microscopiques se sont bouchés, ça a formé un petit caillot de sang. Du coup, une partie de votre thalamus, je dirais environ 1 cm3, n'a plus été irriguée. Et elle est morte, hein, tout simplement.
Et de lui expliquer que là où ça a eu lieu, ça n'est pas trop grave. La partie morte ne stockait pas de données. Ouf! Avec des exercices, on doit pouvoir s'en passer. Ouf!
Mais je vous préviens, monsieur Streff,
va falloir dormir. Dormir, dormir. Soulager votre cerveau. Vous savez que c'est pour ça que les bébés dorment beaucoup. Ils emmagasinent tellement de choses dans leur nouvelle vie qu'ils ont besoin de beaucoup de temps pour ordonner tout ça. Et ça se fait pendant le sommeil.
Et donc, il va falloir dormir et aussi faire de l'orthophonie. Et autant Christian a adoré l'explication technique, autant les séances d'orthophonie et les tests en tout genre, il n'est pas chaud. Le professeur lui cloue le bec tout de suite.
Dites-moi, comment s'appellent vos collaborateurs chez PSA ? Et les objets qui sont sur mon bureau, là, vous pouvez les nommer ? Oui, il y a le numéro de téléphone de votre femme, vous vous en souvenez ? 18 plus 15, ça fait.
Le boxeur est sonné, mais pas KO.
Dites-moi, professeur, est-ce que je vais pouvoir diriger à nouveau PSA ? Je n'en sais rien, hein, je ne connais pas assez votre métier. Mais avant, il va falloir travailler, travailler dur, pour tenter de récupérer le plus de données possible. Et combien de temps ça va prendre ? Généralement, il faut 2 à 3 ans.
Dans sa tête, Christian se dit, 2 mois, oui. 2 mois, ça va suffire. Et donc, il quitte l'hôpital et il rentre chez lui. Et tous les jours, il va chez une orthophoniste, Christine, que lui a dégoté le professeur Sanson.
Christine, je vous préviens, hein, c'est un patron du CAC 40. Alors, vous connaissez ce genre de personnage. Ça sera difficile de le faire travailler à des choses simples. Hein. Mais faites pour le mieux 1 à 2 heures par jour, d'accord ?
Et donc, tous les jours, Christian suit des séances d'orthophonie. Christine, par exemple, lui pose sur la table une 30aine de photos des patrons du CAC 40.
Alors, monsieur Streff, vous les reconnaissez ? Dites-moi leur nom.
Il en reconnaît 1 sur 10. Ensuite, elle lui donne des articles de journaux tout petits, tout simples. 2 minutes après, il a oublié de quoi ça parle. Un calvaire. Et au bout 1h30 d'exercice, il est épuisé. Et ça dure comme ça 2 mois. Et puis arrivent les vacances d'été en Bretagne. Et là, c'est sa femme qui prend le relais. Ça tombe bien, c'est une ancienne institutrice. Ils ont trouvé un livre d'images.
Allez, Christian, dis-moi, qu'est-ce que c'est ça ?
Je sais pas.
C'est une poire, Christian. Une poire. Et ça, c'est quoi ? Une pelle ? Bravo, chérie, bravo.
Le grand patron du CAC 40 réapprend des mots tout simples. Et il s'est fait une raison. Il recommence 1 fois, 2 fois, 3 fois, et il fait des progrès. Et il lui faut aussi un peu de temps pour réintégrer le prénom de ses 3 enfants, Lucie, Marion, Sylvain. Et puis la mémoire des chiffres, le code de sa carte bleue, le code de son immeuble, son numéro de téléphone. Lui qui avant lisait un bilan financier à la vitesse de l'éclair, se retrouve à faire des additions de niveau CM2. Cruel. Et puis arrive la rentrée, et Thierry Peugeot l'appelle.
Alors Christian, est-ce que vous vous sentez capable de reprendre les rênes ?
Ah ben oui, oui. Oui Thierry, bien sûr.
Il va juste travailler un peu moins, il va dormir 2 ou 3 heures de plus, il va continuer des exercices de mémoire, et ça ira. Enfin, c'est ce qu'il pense. 20 juillet, Christian est donc de retour au siège de PSA. Et pour montrer qu'il est à la barre, il organise une conférence de presse pour présenter les résultats semestriels. Avec un objectif très lourd, rassurer. Ne pas faire plonger le cours des actions PSA. Mais assez vite, les gens autour de lui, son directeur financier, sa directrice de la communication, se rendent compte que ça va être dur. Et dans son dos, il monte un plan pour limiter la casse.
L'objectif numéro 1, on est d'accord, c'est qu'il ait l'air en forme. Il faut surtout pas qu'on voit qu'il est fatigué ou affaibli. Et puis l'objectif numéro 2, c'est qu'il arrive à tenir, je sais pas moi, un petit quart d'heure pour exposer ses plans d'action face à la crise et les projets du groupe. Et puis après, on prend le relais pour présenter les comptes, d'accord ?
Le directeur financier le fait répéter. Christian est complètement à côté de la plaque. Et arrive le jour J.
Monsieur Streff, s'il vous plaît, qu'en est-il de votre état de santé? Est-ce que vous pourriez nous rassurer sur votre capacité à diriger le groupe?
Ah bah écoutez, comme vous le constatez, je suis en forme et je suis encore plus motivé qu'auparavant pour faire aller le groupe de l'avant.
Sauf qu'après, Christian ne se souvient pas de la moitié de ce qu'il a à dire. Alors Liliane, la directrice de la com, lui glisse des petits papiers avec les mots qui manquent. Et figurez-vous que ça passe. Le rapport des analystes financiers tombe, aucun d'entre eux ne doute de sa capacité à diriger le groupe. Et donc à la rentrée, il redémarre en douceur. 4 à 5 heures de travail par jour, entre midi et 2, il rentre pour dormir et tous les jours, il fait ses séances d'orthophonie. Et à ce rythme, il réussit tout de même à faire avancer le projet de fusion avec Mitsubishi et même à assurer un rendez-vous avec le président Sarkozy. Mais à la conférence de presse au salon de l'automobile, début octobre, il bute sur les mots, il s'en mêle les pinceaux et en partant, il dit bonjour aux journalistes au lieu de leur dire au revoir. Chez PSA, ça commence à jaser. Et le 25 mars 2009, Christian est auditionné par des sénateurs. Il ne comprend pas les questions. Il est incapable de donner des réponses chiffrées. Son directeur financier essaye de rattraper la balle au vol, mais l'impression est désastreuse. Un crash en direct. Le soir, devant sa glace, Christian doit se rendre à l'évidence. Je ne suis pas encore redevenu celui que j'ai été. Rapide, capable d'amener mes équipes de victoire en victoire. Est-ce que j'en suis encore loin? Quand est-ce que je vais pouvoir à nouveau diriger PSA avec le même allant, la même vitesse d'action qu'autrefois? Et ce qui devait arriver, arrive. Le dimanche 29 mars 2009, 5 jours après son audition catastrophique au Sénat, Christian reçoit un coup de fil de Thierry Peugeot, le président du conseil de PSA.
Allô Christian? Écoutez Christian, on a beaucoup discuté, nous allons vous démettre de vos fonctions. On réunit le conseil à 14h, j'aimerais que vous soyez là.
Ah mais si c'est pour nommer mon successeur, vous n'avez pas besoin de moi, n'est-ce pas? Je trouve vos méthodes un peu expéditives, monsieur Peugeot. Vous ne trouvez pas? Écoutez, je vous demande deux choses. D'abord, vous ne dites rien de mon AVC dans votre communiqué de presse. Et s'il vous plaît, vous insistez sur le travail que j'ai accompli au sein du groupe.
Pourquoi est-ce qu'il demande ça? Parce qu'il pense à ce moment-là qu'il va retrouver rapidement un job du même type, un job de grand patron. Sauf que dès sa destitution, tout le monde est au courant.
L'homme était fragilisé en interne à la suite d'un accident vasculaire cérébral il y a moins d'un an. Il était revenu au travail 2 mois plus tard, mais le discours était encore hésitant, parfois incohérent. La confiance des collaborateurs avait commencé à s'effriter. Les départs se sont alors enchaînés. Le DRH, le patron de la division financière, le numéro 1 de Citroën. La famille Peugeot a préféré s'en séparer pour mettre un homme neuf, issu de la métallurgie comme le demandait la bourse, au moment où l'on reparle d'un rapprochement entre PSA et Fiat.
Le monde impitoyable des affaires. Et il lui faut un peu de temps, bien sûr, pour digérer. Mais il finit par réaliser que 3 mois de rééducation, ça n'était pas assez. Le professeur Sanson avait raison, ça n'est pas 3 mois qu'il faut, c'est 3 ans. Il n'a plus de voiture de fonction, il se met à prendre le métro et à s'y perdre, il continue ses séances d'orthophonie, il dort sans mettre le réveil, quelquefois 15 heures par jour. Et puis il s'arrête à une terrasse de café pour profiter de la douceur de l'air. Il lit, autre chose que des rapports et des comptes. Il redécouvre Paris. Il voyage, il se met à la sculpture. Et le temps fait son œuvre. En 3 ans, petit à petit, il récupère. Ah, pendant 3 ans, il a gardé quand même un petit contact avec le monde de l'industrie. Il est resté au conseil d'administration de ThyssenKrupp. Ça lui donne l'impression d'exister encore un peu dans cet univers dont il a était exclu. Et au bout de 3 ans, eh bien, le virus du grand patron lui revient. Il se voit bien rediriger un grand groupe. Ses anciens amis du CAC 40 lui disent « Revois tes ambitions à la baisse, Christian. Envisage une voie différente. Dirige des entreprises plus petites. » Alors il investit dans 3 start-up qu'il chouchoute et il entre au conseil d'administration de grosses entreprises, Safran, le Crédit Agricole. Mais il n'a pas abandonné l'idée de remonter en selle. Ça me va bien de jouer au vieux sage. Ces positions de conseiller me donnent une envie folle de reprendre le manche. Diriger, voilà ce que j'ai appris en 35 ans de métier. Diriger. Et me voilà donc avec Christian Streff, 10 ans après. Je rappelle le titre du livre dont je me suis évidemment inspiré, que vous avez écrit vous-même. J'étais un homme pressé qui paraît aux éditions du Cherche Midi. Je me suis demandé d'ailleurs si tout le récit que vous faites de cette période, vous l'aviez en mémoire ou si vous l'aviez reconstitué grâce à votre entourage. Vous vous souvenez de tout ?
J'ai écrit le livre sans aucune aide. Oui, j'avais en tête à peu près.
C'est-à-dire même les phrases de votre chauffeur au moment de l'AVC, elles sont là, gravées quelque part.
Ça, c'est inventé, quand même.
Ça, c'est inventé.
Non, c'est inventé. Non, j'ai inventé 2-3 choses. Les mots, bien sûr, que j'utilisais lorsque j'avais pas de mémoire, c'est ma fille qui m'a noté ça.
Pluance.
Et enctures. Oui.
Et enctures.
Oui. Bon, elle a noté d'autres, mais...
Ce sont des jolis mots. C'est marrant. C'est-à-dire que ça ressemble à un beau mot.
Oui.
Pluance et enctures. Pour mettre à jour votre récit, puisque le bouquin, vous avez terminé de l'écrire quand ?
Il y a 3-4 ans.
Ouais. Est-ce que depuis, vous avez réussi à pousser le levier jusqu'à redevenir un grand patron ?
Et non. Par moments, ça me reprend, mais je vis de mieux en mieux avec la vie que j'ai découverte après, en sortant de l'AVC, en sortant des 3 ans difficiles. Je profite, ce qu'on appelle profiter de la vie. Je prends le temps.
Mais de temps en temps, vous vous dites « Ah là, il y a peut-être une opportunité, vous faites passer des messages. »
Oui, ouais, je continue à me le dire de temps en temps. Ouais. Bon. J'ai 64 ans, donc...
Soyons objectifs. Quelle importance ça aurait, finalement ?
Ça aurait peut-être... je vais dire ça autrement. Lorsque je suis passé chez PSA, je pense avoir fait des choses bien sûr, comme chacun d'entre nous. Mais de ne pas terminer tout ça... Et donc je suis quelqu'un de frustré qui est arrivé à un job incroyable, la responsabilité de l'ensemble du groupe PSA, sans démontrer que avec tous les gens qui y travaillent, nous serions allés plus loin. Quoi, voilà. C'est
parce que c'est une culture que je n'ai pas, donc j'ai toujours un peu de mal à comprendre. Mais cette culture de la gagne,
ouais, du résultat, ouais.
Du résultat.
Ouais.
On s'en soigne pas de ça.
C'est très difficile. Oui. Je m'en suis soigné par nécessité, mais dans ce que je fais, effectivement, je continue à avoir la gagne, les entreprises que j'aide.
Oui, entreprises que vous avez.
Faut qu'elles marchent, quoi. Hein.
Ouais.
C'est pas encore tout à fait le cas, mais bon.
Vous regardez les bilans en permanence.
Oui. Et puis je regarde surtout est-ce qu'ils avancent bien, est-ce qu'ils avancent à la vitesse voulue, est-ce que les décisions qu'ils prennent sont les bonnes, et ainsi de suite. Avec une difficulté par rapport à ce que je faisais avant, c'est de ne pas faire. J'ai appris à aider sans décider, sans faire à leur place. Ça, c'était un long chemin quand même.
Quand vous dites que vous avez appris à profiter de la vie, vous racontez dans votre livre le plaisir que vous redécouvrir de vous asseoir à une terrasse de café juste parce qu'il y a un rayon de soleil qui tombe comme ça sur la table et puis commander un café, lire le journal. Enfin, toutes choses que des gens comme moi font tous les jours. Je me demande jusqu'à quel point vous ne mentez pas un peu. Parce que on sent que, bien sûr, vous avez gagné en qualité de vie, mais quand même, ça vous travaille toujours.
Non, c'est clair, ça me travaille toujours. Je mens un peu sous deux aspects. D'abord, bon, il m'arrivait quand même de m'arrêter quelques minutes avant d'avoir l'AVC. Et après coup, effectivement, j'ai toujours au fond de la tête le fait que j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire mieux, j'aurais peut-être pu être plus longtemps un grand patron.
Alors, je vous propose de repartir au début de l'histoire, au moment de votre AVC. Quelle est la part que vous attribuez à la fatalité? Ça peut arriver à tout le monde d'avoir un AVC. Et à votre mode de vie?
Alors, j'allais vous répondre par un chiffre, mais c'est pas possible. je pense qu'il y a les deux. C'est une bagarre qu'on a toujours avec ma femme, qui, et puis même les membres de ma famille, mes amis, qui disent, c'est évident que tu courais ce risque.
Donc, il a crimé votre mode de vie.
Voilà, tout à fait.
Qui n'accepte pas la fatalité.
Mon médecin, en face de ça, dit, non, j'en sais rien. J'en sais absolument rien. Il y a 250 causes possibles d'AVC, ben voilà. Alors, je pense sérieusement que, ayant travaillé à peu près de la même manière quand même, peut-être pas tout à fait au même niveau de stress, de concentration pendant des dizaines d'années, j'ai pas eu d'AVC les années qui ont précédé. Donc,
Parlez tout le temps du café, vous m'avez fichu la trouille. depuis hier que j'ai écrit votre histoire, j'ai diminué ma consommation de café par deux.
Alors,
je vous promets.
Je vous rassure que maintenant je reprends régulièrement un thé, un café, oui. Les deux ensemble.
Donc le café ne vous paraît pas être responsable?
Non, il n'est pas responsable. Non, je pense que effectivement j'étais dans une situation vraiment très très lourde avec toutes les restructurations qui s'annonçaient, tout le travail qu'il y avait à faire chez PSA. Je prenais ça tellement à cœur parce que c'était quand même c'était le job que j'avais.
C'est le défi ultime.
Oui, c'est ça. C'était le défi ultime. Donc il fallait que je réussisse. C'était pour moi autant que pour les 200 000 salariés de PSA. Enfin, j'étais vraiment obsédé par cette chose-là, il est possible que je sois allé trop loin, c'est possible quand même.
J'aime bien la scène qui précède l'AVC, qui en vérité se situe au tout début de l'AVC, ce moment où vous dites à votre secrétaire « j'ai besoin de réfléchir, ne me passez plus de coup de fil », alors qu'en vérité vous allez faire une sieste qui en vérité est un malaise. « J'ai besoin de réfléchir », c'est le signe d'un homme qui ne s'écoute pas.
Oui, je m'écoutais pas, c'est clair, oui. Je m'écoute pas toujours très bien non plus aujourd'hui. Mais en fait, je lui disais, là, je vais dormir 2-3 minutes, quoi, tout simplement. Elle avait l'habitude. C'était une manière de, enfin, qu'ont beaucoup de gens, hein, qui à un niveau de fatigue ont besoin de s'arrêter quelques minutes pour redémarrer. Oui, je me suis jamais beaucoup écouté, c'est clair.
Alors, un point que je veux souligner quand même, parce que vous insistez beaucoup dans le livre pour dire que votre AVC n'est pas l'AVC le plus grave qui soit. Que d'une certaine manière, vous avez eu beaucoup de chance, que ce soit cette zone du thalamus qui a été impactée par l'AVC. Voilà, vous ne voulez pas donner l'impression de vous pousser du col, vous êtes très honnête dans votre bouquin, et d'ailleurs, vous voyez autour de vous, à l'hôpital, des gens qui sont beaucoup plus touchés que vous.
Et la raison pour laquelle j'ai écrit le bouquin, disons, il y a trois raisons là-dedans, mais une raison pour laquelle j'ai écrit le bouquin, c'est d'aider les gens qui ont eu un AVC à y croire. D'abord à y croire, à croire qu'en travaillant bêtement et de façon très très résolue pendant des années, on y arrive. Et c'est vrai également pour les maux physiques. C'est-à-dire que j'ai encore récemment discuté avec quelqu'un qui a eu un AVC, qui avait un bras qui était complètement immobilisé et qui aujourd'hui monte le bras au ciel avec 2-3 ans de travail intensif pour refaire fonctionner cette partie de son corps. C'est incroyable ce qu'on arrive avec de la ténacité, de l'endurance à faire dans le cas des AVC.
Parce qu'à l'hôpital, autour de vous, à la Pitié-Salpêtrière, là, dans votre service, il y a des gens qui sont paralysés, totalement paralysés, incapables de parler, vous le voyez ça.
Ouais. Alors j'ai bien conscience d'avoir eu beaucoup de chance, je fais partie des 50 ou des 30% d'AVC qu'on peut soigner en allant assez loin. Mais il y a des cas, et c'est un cas que mon orthophoniste m'a poussé, et j'ai fini par prendre sa décision, d'embaucher un gars qui a eu un AVC chez PSA pendant les 3 mois où j'ai continué à être le patron. Et ce gars-là, j'en ai eu les nouvelles récemment.
Il y est toujours ?
Il y est toujours, il a eu 2 mômes, il est marié, enfin... C'est incroyable, incroyable. Alors qu'il a toujours du mal à parler, toujours du mal. Donc il y a de belles histoires qu'on arrive avec beaucoup de volonté à reconstituer, quoi.
Alors j'adore le coup de fil du professeur Sanson à votre orthophoniste. Bon, c'est souvent le cas. Ce sont les médecins qui choisissent les orthophonistes en fonction de leur capacité et qualité. J'aime bien quand il dit, c'est le genre de personnage, comme tu le sais, qui ne va pas aimer les exercices simples. C'est humiliant, l'orthophonie.
Oui, c'est vrai. Mais avec cet orthophoniste, on a, dans l'intervalle, on a une amitié qui est incroyable, qui...
Vous vous tutoyez à la fin,
d'ailleurs. Oui, on se tutoie, et à la fin, bon, quand elle m'avait, torturé pendant 1h15, le dernier quart d'heure, on le passait devant un café.
Et un de plus.
Voilà. Elle a commencé à prendre des cafés aussi le matin.
On se sent quoi? On se sent infantilisé par ces exercices qui sont débiles. Hein, faut...
on se sent plus rien. On se sent plus rien. J'avais eu un... Bon, dans une carrière d'ingénieur ou de patron, vous avez des pépins. J'avais eu un pépin, je me suis fait sortir du groupe Saint-Gobain quelques années auparavant. Ça fait partie de la vie, quoi. Ça fait partie... Bon, un pépin, vous avez encore toutes vos forces, vous avez encore tout votre cerveau, votre corps, tout ça, ça réagit très bien, et vous réattaquez. Mais là, c'est plus dur, parce que bon, vous perdez votre job, vous perdez... et en même temps, vous n'êtes pas capable de réattaquer. Ça a été un moment très très dur. Et en plus, l'autre aspect, c'est de se retrouver tout seul. Quand vous êtes patron de PSA Peugeot Citroën, vous voyez 100 personnes, vous parlez à 100 personnes par jour. Enfin, c'est le monde vit autour de vous, quoi. Enfin, ouais. C'est une impression qu'on a de ce genre-là.
Et là, il n'y a plus que votre femme et la famille, quoi.
Il y a pratiquement plus personne. Il y a ma femme, ouais. Mes enfants étaient loin, en plus.
Collaborateurs, quelques
amis.
Pas tant que ça.
Non. Mmh. Bah, les collaborateurs.
Ils sont gênés.
Ils avaient beaucoup de boulot. Beaucoup de gens ne viennent pas vous voir parce qu'ils se demandent qu'est-ce qui va se passer, comment on va pouvoir lui parler, et ainsi de suite. Alors que je parlais très bien. Enfin, bon, c'est.
Mmh. Alors, par quel mécanisme est-ce que vous n'entendez pas ce que vous dit le professeur Sanson, qui est une sommité, et qui d'ailleurs préface votre livre, quand il vous dit il va falloir 2 ou 3 ans minimum, et que vous, dans votre tête, vous convertissez ça en moi.
Oui, il y a d'abord un mécanisme que j'ai eu longtemps, je pense, c'est de ne pas croire ce qu'on me dit.
La fameuse anosognosie.
L'anosognosie, c'est un des facteurs, mais il y a déjà la réaction qui
a longtemps été... personnel, voilà, un mécanisme intime.
Je sais. Oui. Je sais, et on peut me raconter ce qu'on veut. Je vais m'en sortir beaucoup mieux que la moyenne, parce que sa moyenne a 2-3 ans. Enfin voilà. Donc c'est l'essentiel. Et d'autre part, il y a une volonté de pas accepter ce qui m'est arrivé, qui est colossal.
Et la culture de la gagne, peut-être. Toujours là.
Toujours. Oui.
C'est-à-dire à motiver, rien n'est impossible.
Et là, j'ai pas gagné. Oui. J'ai pas gagné.
C'était les limites de la démonstration.
J'ai fait 3 ans, peut-être même un peu plus, comme tout le monde, avant de réussir à m'en sortir. Mais voilà, j'en suis sorti quand même.
Votre débarquement de PSA, vous en voulez à Thierry Peugeot ?
Non. J'en ai voulu au moment où j'ai écrit le bouquin.
Il y a quelques années.
J'ai mis pas mal de temps à écrire les quelques lignes, d'ailleurs, assez dures à ce propos.
Vous vouliez que ça soit marqué ? Mais pas trop.
Voilà,
ça se voit,
Oui, c'est vrai. Ouais. Aujourd'hui, je le marquerai plus. D'ailleurs, je vais le revoir pour tout vous dire. On va se revoir un de ces jours là avec le scénariste d'ailleurs, avec le producteur du film.
Mais vous ne découvrez pas le monde de l'entreprise quand même et sa dureté.
Non.
Imaginez, tenez, cas d'école. Vous êtes PDG de PSA. L'ingénieur qui dirige le projet DS3 fait un AVC. Vous le gardez ?
Non, je le change le lendemain matin.
On est d'accord.
Oui, c'est clair. C'est clair. Ils ont été très gentils avec moi.
Quand même. Non, mais sur le moment, vous l'avez très mal pris.
On n'a pas non plus le choix. Lorsque un patron, le remplaçant du patron, vous ne l'avez pas sous la main. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je dis que la famille Peugeot a été vraiment très, très attentive et a réellement espéré que je m'en sorte. Je pense que pendant quelques mois, ils ont réellement espéré que je m'en sorte.
Ils tenaient à vous ?
Je pense.
Mais après, quand on est à la tête d'un groupe comme celui-là, il n'y a pas de place pour l'improvisation.
C'est la vie. C'est la vie.
C'est la vie. Votre but, quand vous racontez votre histoire, parce que ce n'est pas évident, ça vous demande de descendre un peu, et pas qu'un peu d'ailleurs, de votre piédestal, un peu définitivement d'ailleurs. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir de maintenant, les gens qui ont vu le film, les gens qui ont lu votre livre, les gens qui vont écouter cette histoire sur Europe 1, n'auront plus de vous la même image. Vous avez quel objectif ?
D'abord, le premier objectif, c'est celui que je vous ai dit, celui d'aider les gens qui ont eu un AVC, d'aider à y croire, d'aider à se battre pour s'en sortir. Et j'ai quelques bons exemples de gens qui m'ont écrit. Pour moi, ça a marché, quoi. Ça a marché. Merci d'avoir écrit tout ça. Il y en avait un autre qui était de remercier tous les gens qui m'ont aidé. De remercier ma femme, de remercier
Christine,
les orthophonistes, voilà.
Le professeur.
J'avais une manière de dire merci, sans vous, je n'y serais pas arrivé. Et le troisième, c'était d'arrêter de parler de ça. Bon, ça, c'est raté. Hein. Parce que le livre a pas mal marché, et puis...
Il y a eu le film.
Voilà, il y a eu le film.
Et le livre en ressort.
C'est infernal,
là.
Quoi. C'est infernal.
Bon, votre but n'était pas de faire peur. Et pourtant, vous m'avez fait peur. Mais parce que j'ai 55 ans. Et donc, je me dis, j'ai pile l'âge. Je bois du café, je dors pas beaucoup. Est-ce que vous voulez nous faire peur un peu, quand même? Nous mettre en garde?
Non, j'ai pas pensé à ça. Non, j'ai pas pensé à ça, vraiment pas. J'ai simplement pensé à... Ouais, à ceux qui en ont eu un. Parce que je sais absolument pas, un peu comme les médecins, les causes réelles des AVC aujourd'hui. C'est un domaine de recherche qui est encore énorme, où beaucoup de scientifiques travaillent. Trouver les causes, parce qu'il n'y en a pas qu'une, hein, je pense qu'il y en a plusieurs, essentielles pour pouvoir lutter contre. C'est encore un gros sujet chez les médecins pour aider tous les, disons, à réduire le nombre d'AVC. Le nombre d'AVC augmente chaque année.
Cet AVC-là, et il vous a un peu empêché d'avoir un grand triomphe dans votre carrière. Saint-Gobain, vous n'étiez pas PDG. Airbus, vous n'y êtes pas resté longtemps. PSA, ça devait être votre sacre. Et d'ailleurs, ça a marché. La DS3 a cartonné, PSA est sorti du rouge. C'est donc l'accident qui empêche le sacre.
Un petit peu, oui, oui. Même si, bon, honnêtement, je pense avoir surtout bien travaillé toute ma vie, avoir fait des choses dans les petites sociétés que je dirigeais au début, dans les parties du groupe Saint-Gobain que j'ai dirigé ensuite, et puis l'année et demie que j'ai passé à la tête de Saint-Gobain, et puis les 3-4 mois que j'ai passé à la tête d'Airbus. Tout ça, c'est très positif. Les 2 ans et demi ou 3 ans que j'ai passé à la tête de PSA Peugeot Citroën, pour moi, c'est... Enfin, je pense pas avoir laissé beaucoup de traces noires, de dégâts, de choses comme ça. Je pense avoir réussi, mais c'est vrai qu'il manque le point final. Voilà,
il manque la médaille d'or, quoi.
Ouais,
le titre de champion du monde.
Si vous voulez, ouais, je sais pas.
Enfin, comme un joueur de l'équipe de France qui arrête l'année avant le titre de champion du monde.
Un petit peu, oui. Je pense qu'il fallait 10 ans, quand même.
Merci beaucoup, Christian Streff, de m'avoir fait confiance tant d'années après pour re-raconter cette histoire, une fois de plus. Vous pourrez, évidemment, vous qui nous écoutez, la compléter par la lecture de ce livre « J'étais un homme pressé » de Christian Streff, qui sort aux éditions du Cherche Midi.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.